Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Je n'arriverai pas, moi j'ai tous les frères, qui n'arrivent même pas pour partir à la guerre. Je ne mangerai pas de ce qui fait dit, je serai pas seul d'être communiste toute la vie. Je ne mangerai pas,
qu'ils assassinent impunément.
Un mot trop, et c'est un mot tout en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et le pic du flingue de classe. Les flics, la police et le vice.
Et par des keufs se font planer, c'est connu, dans le Parisien t'as que des histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Soit du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand ta frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Moi seul et unique.
La Marseillaise, même en sifflant, ça m'a toujours fait dégueuler. Numéro 0. De midi à 13h, un jeudi sur deux, c'est maintenant sur la 895 FM. Numéro 0, c'est un média alternatif et participatif de Saint-Étienne et sa région. Sur internet, numéro0.l'autre.net, tout attaché. Et ça existe aussi sur papier. Pour tout vous dire, on ne prétend pas trop à l'objectivité. Et on va encore le prouver aujourd'hui. Au sommaire, des brèves, des infos locales, le pourquoi de la grève à la SNCF et forcément encore du n'importe quoi sur cette histoire mystérieuse de sabotage et de terrorisme. Montez le son, ça va cartonner, c'est parti.
Voilà, bonjour, bonjour. Donc on va tout de suite entamer quelques petites brèves. Donc d'abord une petite info très locale. Il y a eu ce mardi 18 novembre à l'Université Jean Monnet une assemblée générale des personnels précaires. Donc en gros, c'est quelques employés de l'université qui en ont eu ras-le-bol de leurs difficultés liées à leur statut de vacataire. Donc vacataire, moi j'ai pas exactement compris ce que c'était, mais c'est un statut de travail très précaire. Donc ils ont appelé à se rencontrer avec tous les autres travailleurs précaires de l'université Jean Monnet, avec toute autre personne qui les soutiendrait, pour discuter de tout ça. Donc je vais juste vous énumérer quelques trucs écrits sur leur tract qui énumèrent leurs difficultés. Donc par exemple, paiement des salaires différés parfois plusieurs mois après la période travaillée. Donc certaines personnes sont payées 6 mois, voire 1 an après avoir travaillé. Fiche de paie la plupart du temps erronée, sans indication claire des périodes travaillées, ce qui entraîne de gros problèmes au niveau de certaines administrations, CAF, ACEDIC, impôts. Travail sous-évalué, non prise en compte des heures réelles de travail, salaire parfois clairement en dessous du SMIC, refus de payer les frais de déplacement, manque de considération et de reconnaissance flagrant, attitude de l'université qui considère que ces rémunérations sont des revenus accessoires d'appoint pour les travailleurs, alors que les vacations constituent pour beaucoup la source principale de revenus, etc. Donc les personnes qui ont lancé cet appel étaient des vacataires, mais qui reconnaissaient qu'il y avait d'autres statuts précaires à l'université, que dans plein de services de l'université, en fait, l'université recourt massivement au travail précaire et que ça l'arrange bien. Donc en fait, cette petite AG, elle a réuni quand même, je pense, une trentaine de personnes. Et les personnes ont échangé leurs expériences. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs assez sidérants qui leur arrivent dans leur travail, qui leur facilitent pas trop la vie. Et le but, voilà, c'était de partager ces expériences, trouver des solutions collectives. Un des constats, c'était que on essaye de diviser les travailleurs entre eux, selon leur statut, selon le service dans lequel ils travaillent, etc. Donc une des volontés aussi qui était affirmée, c'était de ne pas s'opposer, mais vraiment de chercher des solutions collectives. Voilà. Et ils ont décidé de refaire encore de l'information, un tract, etc. Et alors, si ça vous intéresse, il y aura une nouvelle réunion à l'université ce mardi 25 novembre. Voilà, et il y a un blog, j'ai pas l'adresse exacte ici, mais qui s'appelle UJM en lutte sur Overblog, où il devrait y avoir des infos et où ils voulaient rassembler des témoignages un peu, où les gens expliquent pourquoi ils en ont marre de la manière dont ils sont traités en tant que travailleurs. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, eh ben, on va enchaîner avec autre chose qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre 2008 et c'est la 10e journée internationale de la mémoire transgenre. Donc, en gros, il y a des événements, actions, etc. qui vont se passer dans plus de 110 villes dans le monde, apparemment. Et donc, le but, c'est de faire ces actions, événements à la mémoire des personnes transgenres victimes de crimes de haine. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire transgenre ? De manière plus générale, on peut parler de transidentité. Donc en fait, j'imagine il y a plusieurs définitions, je vais essayer de vous en donner une. C'est en fait simplement le fait de ressentir un besoin ponctuel ou durable, d'adopter les attributs sociaux du genre auquel on s'identifie, qui peut être en contradiction avec son sexe génital. En gros... à la naissance, on a regardé ton sexe, on a dit que t'étais un garçon, et puis en fait, toi, tu te sens femme et t'as envie d'être reconnue comme une femme, ou l'inverse, ou t'as envie d'être reconnue comme ni femme ni homme, t'as juste envie d'être bien dans ta peau, etc. Et c'est un terme global qui désigne en fait divers modes d'expression, divers comportements, qui peuvent aller du fait de se travestir au transsexualisme, c'est-à-dire vouloir passer par une opération chirurgicale pour changer de sexe, etc. Et alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est classé par la médecine dans les troubles psychiatriques, alors que ça relève pas spécialement de problèmes psychiatriques. Donc, psychiatriser, ça, c'est pas une solution. Et ça prouve comment ces comportements, ces manières de s'exprimer ou de ressentir son identité sont pas du tout acceptées par la société, ce qui est lié au fait que les transgenres, transsexuels, travestis, etc., se font régulièrement agresser, tabasser, etc., voire tuer dans la rue, ont des problèmes au boulot, dans les études, enfin dans plein d'aspects de la vie sociale, en famille, etc. Voilà. Et donc, il y a régulièrement des crimes contre des trans en France et ailleurs. Et cette journée, aujourd'hui, pour la mémoire transgenre, elle est là pour parler de ça. Donc, ce soir à Lyon, à 20h30, au Forum Gay et Lesbien, 17 rue Romarin, dans le 1er arrondissement, il y aura un débat autour de la transidentité et de la transphobie, donc organisé par Chrysalide. Donc, ce soir, le 20 novembre, à 20h30 à Lyon. Et juste quelques infos, il y a un blog qui s'appelle, je ne sais pas comment on dit, Le Z Strasbourg sur overblog.com, donc c'est lezstrasbourg.over-blog.com. Il y a un autre site qui parle de transidentité qui s'appelle www.transidentité.fr. Et voilà, et sinon... à savoir aussi que le 25 novembre, il y aura une association LGBTI turque qui s'appelle Association Lambda Istanbul. Donc LGBTI, c'est lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, intersexe. Donc c'est une association en Turquie qui défend les LGBTI, qui fait des mobilisations, tout ça, organise une queer pride, je crois. Et qu'il y a beaucoup de problèmes avec la justice. Ils veulent les faire interdire pour cause de menaces à la moralité publique. Donc c'est le 25 novembre et il y a un appel à soutien et à action. Donc je vous laisse, si ça vous intéresse, regardez plus de détails sur leur site aussi. Voilà, je suis désolée, je vous envoie beaucoup vers des sites. Leur site, c'est www.lambdaistanbul.org. Voilà, alors je vais enchaîner avec une mini brève. En fait, on a appris un peu tard que ce 15 novembre, c'était les 20 ans de SOS Tout Petit. Donc SOS Tout Petit, c'est une asso de vraiment salopards d'intégristes catholiques qui luttent depuis justement 20 ans contre l'avortement, qui font chier les gens qui veulent avorter, qui font chier les gens qui pratiquent l'avortement. Et souvent, ça a l'air d'être des petits vieux ou des petits jeunes, tout gentils et sans défense, qui prient devant les hôpitaux, devant les églises, etc., contre l'avortement. Et en fait, c'est des gens très dangereux, c'est des gens qui ont de l'influence. Et donc, c'était le 15 novembre, ils ont fait leurs 20 ans dans plein de villes en France, pas à Saint-Étienne. Il y a des gens qui se sont mobilisés contre eux, comme depuis 20 ans, il y a des gens qui se mobilisent contre eux. Souvent, ils sont protégés par les flics. Et juste pour dire que si jamais vous entendez parler de trucs comme ça à Saint-Étienne, par exemple, n'hésitez pas à en informer les gens autour de vous, à vous bouger, éventuellement à informer le numéro 0. On vous rappellera à la fin comment nous informer. Parce que, ils ont des têtes de gentils cubénis, mais ils sont très dangereux. Voilà. Et pour finir, je voulais parler de la grève à la SNCF. Parce que... j'ai suivi en écoutant France Info, comme tout bon citoyen, qu'il y avait une grève à la SNCF, mais comme d'hab, pour plein de grèves, j'ai pas compris le pourquoi de cette grève. Alors j'ai demandé à une copine qui bosse à la SNCF, qui m'a expliqué vite fait. Donc en gros, la direction... on est dans une période où la SNCF est en voie de privatisation, en gros, et doit devenir rentable. Et donc là, la direction voulait... ou veut, je ne sais pas, modifier le RH77. Donc en gros, c'est le règlement des horaires des conducteurs du fret. Donc le but là, de cette organisation globale vers la privatisation de la SNCF, c'est de rendre rentable tous les services, de rendre tout rentable, de faire crever ce qui n'est pas rentable, etc. Et donc ils s'attaquent à petit bout par petit bout. Donc là, ils ont décidé de commencer par le fret et par les conducteurs du fret. Donc ils séparent tout aussi pour qu'il y ait, vous voyez, on sépare les gens pour s'attaquer aux uns après les autres. Et donc le fret apparemment fait plus vraiment une filiale qui fait plus vraiment partie de la SNCF. Bref, et en gros, ce qui emmerde beaucoup la SNCF et les gens qui veulent la rendre rentable, c'est qu'il y a beaucoup de règlements et de statuts qui protègent les travailleurs de la SNCF. Ce sont pas, comme on essaye de le faire passer parfois, des privilèges de ces salopards de fonctionnaires. C'est des travailleurs qui se sont battus pour avoir des droits et un travail à peu près décent, enfin je sais pas comment dire, pour pas se faire trop exploiter, quoi, des cernes. Voilà. Donc la SNCF, ça l'emmerde. Donc elle veut déréglementer tout ça pour rendre ses travailleurs un peu plus rentables. Et donc ce projet, ça passe ou passait par le fait de rendre malléables les horaires et les conditions de travail. Faut savoir que par exemple, il y a des pauses obligatoires d'au moins 12 heures entre deux journées de travail, des choses comme ça. C'est pas mal quand même. Et c'est un peu normal qu'ils le défendent. Voilà. Et après, moi, ça m'a fait penser à un film qui s'appelle The Navigators de Ken Loach. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai vu il y a quelques années et ça m'avait beaucoup touchée. Parce qu'en gros, il montre très bien comment en Angleterre, on a privatisé le service du rail et comment c'est devenu l'enfer pour les gens qui bossaient. Et c'est devenu super dangereux pour eux, voilà. Alors, moi, je ne souhaite pas aux gens de la SNCF que ça leur arrive. Alors, peut-être on a entendu ce matin à la radio que le projet a été repoussé. Moi, je pense que si c'est le cas, c'est pour les endormir. Bref, on verra. Il y aura peut-être une grève à partir de dimanche soir. Donc, moi, en tant qu'usagère, je suis solidaire. J'espère que vous aussi. Voilà. Et puis, dans la prochaine émission, on essaiera peut-être de vous amener plus d'infos qui viennent des grévistes eux-mêmes. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je crois que c'en est fini des brèves.
Ce noyau dur avait conçu dans la création d'une structure qu'ils appellent la cellule invisible,
autonome,
qui avait pour autonome objet la lutte armée.
Autonome.
Lutte armée.
Autonome. Qui sont ces brûlons des caténaires, ces pacoulines de l'aiguillage?
Dans les squats, on les retrouve dans certaines universités, on les retrouve dans les squats,
on les retrouve dans les squats,
on les retrouve dans les squats. Et puis, malheureusement, l'histoire a prouvé que c'était une glissade inéluctable et qu'on allait vers une surenchère qui aboutissait à des drames et à des assassinats. Il faut arrêter cette dérive. Il faut arrêter cette dérive.
Et tous les services de police et de gendarmerie sont mobilisés à cette fin.
En détail, cagoule, batte de baseball, cocktail Molotov, matériel d'escalade, pince coupante, manuel pour résister aux questions des policiers, gilet pare-balles et faux papiers. Et les enquêteurs s'intéressent à l'insurrection qui vient.
Ces individus que l'on appelle aussi les anarchistes, ces individus que l'on appelle aussi les anarchistes, ces individus que l'on appelle aussi les anarchistes,
qui sont beaucoup plus radicaux.
Dans les rues, c'est la stupeur.
Beaucoup plus radicaux.
Dans les rues, c'est la stupeur.
Beaucoup plus radicaux.
Dans les rues, c'est la stupeur. C'est la stupeur. Dans les rues, peur, 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 peur.
C'est assez discret.
Moi, ça me paraît énorme, 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 je vous le dis.
Bonjour, vous êtes bien sur l'émission numéro 0, 89.5 FM. Alors, maintenant, on souhaitait revenir sur les sabotages qui ont eu lieu dernièrement sous les lignes de la du TGV dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier. Je pense que vous en avez tous et toutes sûrement entendu parler. Nous, on n'a pas pu résister à participer à ce chef-d'œuvre de désinformation et de manipulation des masses. On va quand même pas se retenir de dire des conneries dans cette démocratie. Du coup, je voulais rappeler que particulièrement sur ce sujet, nous sommes pas objectifs et que particulièrement sur ce sujet, on a décidé de prendre parti justement. Alors en gros, ça va durer un petit bout de temps, on va articuler le truc pour commencer par un rappel des faits, après on va revenir sur les arrestations, on va parler un petit peu de comment les médias et le ministère ont monté de toutes pièces cette mouvance anarcho-autonome, et pour finir, par essayer de tenter de donner une explication politique au blocage.
On doit saluer ici l'enquête éclair
des tracts, des livres, des banderoles. Des tracts, des livres, des banderoles. Des tracts, des livres. Des tracts, des livres.
Alors, pour commencer, vite fait, une petite succession de petites infos comme ça, qui est un résumé de ce que nous en ont dit les médias bourgeois. Il y a chaque année en France 25 à 26 000 actes de malveillance, entre guillemets, comme dit la SNCF, sur ces lignes, sur les lignes de train. Ça va des sièges déchirés jusqu'à un centre d'aiguillage brûlé, par exemple. Parmi tous ces actes de malveillance, certains sont qualifiés de sabotage seulement. Les TGV ne se déplacent que grâce à l'électricité, comme la majorité des trains aujourd'hui en France. Cette électricité provient des câbles qui sont suspendus au-dessus des rails et qui s'appellent les caténaires. Pour aller chercher ce courant électrique qui circule dans les caténaires, pour un TGV, ça veut dire à peu près 25 000 volts, un bras articulé, placé généralement sur le toit de la locomotive, monte et descend une barre horizontale qui touche la caténaire et transmet l'électricité au moteur. Ce bras articulé, ça s'appelle un pantographe. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 novembre, donc, en quatre endroits différents du nord-ouest de la France, a été fixé un crochet fabriqué à partir de fer à béton sur les caténaires, de manière à ce que quand le train passe, son pantographe accroche ce crochet et finisse par arracher les caténaires. Avec la vitesse, c'est plusieurs dizaines de mètres de câbles qui ont été arrachés. Le résultat, c'est que le samedi 8 novembre, donc, 150 TGV ont été retardés de 10 minutes à 4h30, car ils utilisaient les lignes classiques qui, elles, n'avaient pas été sabotées. Si l'on en croit le président de la SNCF, M. Pépi, cité dans le Figaro du 10 novembre, je cite, « Les auteurs savaient qu'ils ne mettaient pas en cause la sécurité des voyageurs. » Et plus loin, recitation, « Ils ont provoqué la panne des pannes, pas dangereuse mais invalidante. » Je répète, pas dangereuse mais invalidante. En effet, par exemple, les crochets ont été placés pendant la nuit et les TGV ne circulent pas la nuit. C'est un train ouvreur, sans passagers, qui circule sur toute la ligne avant les premiers TGV passagers, qui à chaque fois a arraché les caténaires.
Ce qui n'a pas empêché le deuxième acte de cette série, c'est-à-dire le 11 novembre, la police et la gendarmerie annoncent qu'ils ont résolu l'affaire et arrêtent 10 personnes. Ces 10 personnes vont passer plus de 96 heures en garde à vue, avec les cagoulés de la section antiterroriste sur le dos. Finalement, ça sera 9 mises en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Aïe, 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 aïe. 4 personnes finalement relâchées en liberté sous contrôle judiciaire et 5 autres, hélas, en détention provisoire, avec en bonus pour 3 d'entre elles, destruction en réunion. Selon la loi, la mise en examen signifie que le juge estime disposer d'éléments graves et concordants à leur encontre. Cependant, vous avez tous et toutes remarqué, et même les médias l'ont remarqué, le manque de preuves flagrantes dans cette affaire. On nous a parlé de lampes frontales, de matériel d'escalade, de grilles horaires de train, de guides de comment réagir en cas de garde à vue. On a du mal à voir le lien entre ce matos de randonnée et un sabotage sur des câbles à 25 000 volts. D'autant plus, à l'heure où on nous rabâche toujours les miracles des prélèvements ADN, il faut noter dans cette affaire l'absence de toute preuve directe comme des traces d'ADN et d'empreintes digitales. En gros, le gros truc qu'il leur a reproché, c'est que 2 d'entre eux auraient été soi-disant aperçus dans les environs des lieux la nuit où les machins ont été déposés. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi, si seulement 2 d'entre eux ont été aperçus, pourquoi il y a eu 10 personnes d'arrêtées et pourquoi finalement ces 2 qui ont été aperçus près des lignes n'ont pas été pris en flagrant délit. D'autant plus qu'apparemment, ils avaient sur le dos la brigade antiterroriste et la direction centrale du renseignement intérieur, c'est-à-dire pas des rigolos. Les grands moyens avaient été déployés, mais on est bien forcé de constater que les résultats ne sont pas là. Heureusement, le journal Le Sud-Ouest a fait la lumière dans cette affaire. Maintenant, la preuve est faite qu'un des inculpés est propriétaire d'une maison à Arcachon.
Ça, c'est grave, hein?
Car bien sûr, l'ironie ultime de ce genre de moment, c'est les médias bourgeois. Je ne voulais pas vous refaire le détail de quel gros groupe se cache derrière tel ou tel média, mais les médias bourgeois qui essayent de faire passer leur proie pour un petit bourgeois. Hélas, après tout ce montage médiatique, après 6 jours à avoir passé et essayer de leur tailler des gueules d'ennemis publics numéro 1, on va avoir du mal à les relâcher, on va avoir du mal à laisser ces terroristes en liberté. Alors du coup, même sans preuve, on les garde en préventive, le spectacle est terminé, on ferme les rideaux sur cette affaire. Et dimanche, hop, on arrête d'en parler. Et le lendemain, tout le monde a oublié et on parle de nouveaux terroristes, les gens de l'ETA. Il faut quand même rappeler que les 9 arrêtés sembleraient être de dangereux lecteurs de textes subversifs qui participeraient à des manifestations et tout, quoi. Des genres, des vrais dingues, quoi. Ce qui caractérise ces 10 personnes et ce qu'on leur reproche particulièrement, et ce que particulièrement le gouvernement leur reproche, c'est qu'ils appartiendraient à l'ultra-gauche, à la mouvance anarcho-autonome. L'ultra-gauche, la mouvance anarcho-autonome.
Aucun des suspects n'appartient à la société.
On les retrouve dans les squats.
Aucun des suspects n'appartient à la société.
Avec peut-être en prévision des actions encore plus violentes contre les personnes.
Et c'est là où on voulait en venir pour continuer. Comment ont été inventés les anarcho-autonomes ? Qu'est-ce que c'est que cette ultra-gauche mouvance anarcho-autonome ? Alors, chères auditrices, chers auditeurs, le numéro zéro mouvance émission sur Radio Dio a cherché à retrouver la trace de ce mystérieux groupe. D'abord, ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais personne jusqu'à présent ne s'est revendiqué anarcho-autonome. Il y a bien quelques gens qui se disent autonomes, par exemple l'UNSA Police, qui veut dire Union Nationale des Syndicats Autonomes, Mouvance Police. Et il y a bien d'autres gens qui se disent autonomes, et notamment des gens dans les années 60-70 en Italie, qui ont bien failli mettre à bas le capitalisme, et qui ont fait des chansons, on va en entendre une tout à l'heure. Il y a bien des gens aussi qui se disent anarchistes, mais, et ceux-là, il n'y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent. Mais anarcho-autonome, ça n'a rien. Jamais. Pas un groupe, pas un parti, pas un tract, pas un article, pas un livre, pas une revendication, rien ni personne ne s'est jamais appelé d'elle-même anarcho-autonome. Alors d'où ça sort ce machin ? Eh bien, ça sort à première vue de la presse. La presse, les journalistes qui nous informent depuis plusieurs mois sur ces anarcho-autonomes. Et ces infos, ces discours sur les anarcho-autonomes sont-elles le fruit de longues heures de recherche, de recoupement, d'enquête ? Eh bien, je vais vous surprendre, mais non. Les anarcho-autonomes, pour la presse, c'est tombé tout cuit dans le bec, il n'y a rien eu à faire. La source irréprochable, qui leur a tout écrit, tout analysé, tout enquêté. Car les premiers à parler d'anarcho-autonomes, ce sont la police, la justice et le ministère de l'Intérieur. Avant eux, personne ne savait que ça existait, et pour cause. On peut estimer que ça fait plusieurs années que l'État se cherche un anarchiste poseur de bombes de service et qu'elle tâtonne au détour de manifs ou de contre-sommets pour arriver à ses fins. La lutte contre le CPE et son monde, avec ses manifs sauvages, ses occupations, ses blocages, permet de tester le prototype et de finaliser le détail avant la livraison. Le produit est mis sur le marché quasiment officiellement en mai 2007, pendant et après l'élection présidentielle. La police stigmatise, à côté de ses autres figures du fauteur de troubles classique, que sont le casseur ou le jeune de banlieue, celle un peu plus nouvelle de l'anarcho-autonome. Et ces trois-là sont déclarés responsables des casses de permanence avant les élections et des manifs sauvages et émeutes qui se sont déroulées juste après. Et comme il faut quand même donner un corps, une existence plus réelle à ce qui n'est encore qu'une idée, la police arrête, à quelques jours d'intervalle, à la fin de janvier de cette année, des personnes que les renseignements généraux avaient déjà fichées comme étant des anarcho-autonomes.
Et les trois premières personnes, Yvan et Bruno, et un de leurs amis qui passait par là au moment de l'arrestation, sont arrêtés à Paris le 19 janvier, alors qu'elles se rendaient à une manif devant le centre de rétention de Vincennes. Dans leurs affaires, elles transportent un fumigène fait maison, des pétards, des clous tordus, pour les pneus de voiture de flics, qui transportent prisonniers, prisonnières sans papier. Belle occasion pour la police, puis la justice antiterroriste, qui vont perfectionner leur œuvre. Elles vont transformer un simple fumigène artisanal et des clous tordus en une bombe. Et qui dit bombe, dit terroriste. Il faut noter là encore que la presse unanime se contente de faire des copier-coller entre les communiqués de presse fournis par la police et leurs articles. Pas un papier pour constater ce qu'une simple enquête montrerait facilement, que fumigènes et pétards, clous, perceurs de pneus et feux d'artifice sont des pratiques devenues courantes au cours de ces manifs autour des centres de rétention en soutien aux luttes dures qui se déroulent à l'intérieur par les migrants et migrantes, elles et eux-mêmes. Aujourd'hui, ces trois personnes sont toujours sous le coup d'une enquête par la section antiterroriste et elles sont sorties récemment de prison, mais pour être soumises à un contrôle judiciaire très strict. Contrôle judiciaire que Bruno a refusé. Il est toujours en cavale à l'heure actuelle. Bon courage, bon vent.
Il faut souligner en plus que Yvan et Bruno ne sont pas les seuls à avoir ramassé dans cette histoire d'anarcho-autonome. Il y a deux autres personnes, Farid et Isa, contrôlées par la douane le 23 janvier dernier à Vierzon et arrêtées. Farid était fiché par les RG comme un soi-disant anarcho-autonome. Et ce jour-là, l'examen de la voiture a du coup donné plein de sortes de pseudo-trucs pour permettre de fabriquer une sorte d'épouvantail terroriste autour d'eux. Ils disent, les flics, avoir trouvé dans le véhicule du chlorate, un plan de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville et une documentation écrite sur la fabrication d'engins explosifs. De plus, on reproche à Isa, soi-disant, d'avoir posé un engin explosif sur une dépanneuse de la police nationale pendant les dernières élections présidentielles, avec la preuve, soi-disant, qu'on aurait trouvé son ADN sur cet engin explosif. En fait, cet engin explosif, d'après la description qu'en font les flics eux-mêmes, ça serait un cocktail Molotov dont l'allumage aurait été retardé, un truc qui s'enflamme puis qui brûle et non pas une bombe qui explose. Isa, de toute façon, nie toute implication dans l'affaire. Et de toute façon, on peut aussi dire que les prélèvements ADN et les comparatifs ne sont pas fiables à 100%, ça on commence à le savoir. Et Farid et Isa, à l'heure actuelle, sont toujours enfermés et l'enquête est en cours. Un petit coucou à eux.
Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention! 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 Attention!
Bienvenue dans le journal de TF1. La SNCF est toujours en état d'alerte et pour cause, un nouvel incident s'est donc produit.
L'étape suivante, c'est la circulaire. Le ministère de la Justice envoie le 13 juin dernier à tous les procureurs de France une circulaire. Cette note, qu'on trouve sur le site internet du syndicat de la magistrature, dit en gros, je cite, qu'elle constate une résurgence de faits en lien avec la mouvance anarcho-autonome. Fin de citation. La circulaire demande de centraliser à Paris toutes les infos sur ces événements. Elle tente donc de dire qui est anarcho-autonome. Et là, c'est à peu près le grand n'importe quoi, car l'anarcho-autonome, selon cette dépêche, est une personne qui entretient des relations avec des amis allemandes et italiennes et une bonne partie des pays de l'Union européenne, qui fait des tags, qui manifeste son soutien à des prisonniers ou à des sans-papiers, qui lance des cocktails Molotov, qui commet des dégradations, qui lutte contre les prisons, et notamment celles en construction, qui fait des braquages, etc., 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 etc. Et la circulaire est rédigée de telle façon qu'elle laisse penser que tous ces faits relèvent du terrorisme. En gros, est anarcho-autonome, et donc terroriste, une personne qui pourrait taguer « Libéré José Bové » sur le mur du palais de justice de sa ville, ou le réseau RESF qui soutient, cache et empêche les expulsions de sans-papiers, ou les membres d'un rassemblement qui veulent faire la lumière sur les morts suspectes en prison, ou les personnes qui sabotent un chantier de prison pour mineurs en faisant brûler les engins de chantier. On le voit donc, en fait, après tout ce qu'on vient de dire, que les anarcho-autonomes, c'est comme Dieu, ça n'existe pas. Ça n'est qu'une idée, mais une idée qui a des conséquences bien réelles provoquées par ceux qui veulent l'imposer. On peut se demander aussi quel est l'intérêt d'une telle invention. Eh bien, on peut supposer qu'elle a à peu près le même rôle que cette autre catégorie, les casseurs, qui séparent les bons manifestants des mauvais. Ou bien encore cette autre catégorie qui sont les voyoucraties, ou les soi-disant islamistes radicaux qui auraient initié et dirigé les émeutes populaires de octobre et novembre 2005 et celle de Villiers-le-Bel quelques mois plus tard. C'est pour créer et entretenir des associations d'idées qui délégitiment, qui condamnent. Par exemple donc, qui dit casseur, dit violence, dit mauvais. Ou encore, banlieusards en révolte égale violence, égale racaille, égale trafiquant, égale mafia. Quand la police, la justice ou les ministères, bref, quand l'État crée ces catégories, c'est le plus souvent dans un contexte d'une lutte sociale qui attaque de façon plus ou moins affirmée l'existence même de cet État, ou du moins sa tendance totalitaire à la surveillance et au contrôle. Elle sépare, jusque dans leur tête, les personnes qui luttent dans les mêmes manifs, dans les mêmes organisations, dans les mêmes quartiers, qui font partie de la même classe contre les mêmes ennemis. C'est une des multiples façons de diviser pour mieux régner, et le moyen le plus efficace de la division, c'est la peur. La peur de la prison, la peur des coups, et la peur de la mort.
On parlait politique, mais on parlait politique, on ne parlait pas d'aller mettre le feu partout, hein. C'était pas la bonne manière. Hein.
Il y a plus d'un million de personnes qui, dans notre pays, s'intéressent aux ferroviaires, aux techniques.
Aucun cheminot ne figure parmi eux.
Bon, arrêtons de parler des anarcho-autonomes, des anarcho-autonomes, des anarcho-autonomes. Cessons d'avoir peur, laissons de côté le terrorisme, et maintenant, je vous propose de prendre le temps de réfléchir au sens politique du blocage des voies de chemin de fer. Tout d'abord, je tiens à rappeler que bloquer l'économie, que ce soit par la grève, le boycott ou l'interruption des flux, a toujours été la meilleure arme politique du mouvement ouvrier. Comme par exemple, on pourrait rappeler les opérations escargots des routiers grévistes, ou alors les blocages et occupations de gares pendant le mouvement anti-CPE, qui ont quand même pas mal contribué à faire plier un peu le gouvernement. Les mouvements des cheminots, pendant les grèves, tirent justement leur force de cette capacité à bloquer la circulation des marchandises et des personnes. Je voulais rappeler aussi que pendant les grèves de 2007, contre la réforme des retraites, étaient venus s'ajouter à l'occupation des dépôts, aux manifestations, aux piquets de grève, divers actes de sabotage, tels que des pierres dans le système d'aiguillage, incendie de système électrique, vol de clés de locomotive, lecteurs de cartes dégradées, huile sur les rails, etc., etc. La pratique du sabotage ne date pas d'hier, elle s'inscrit dans de nombreuses luttes de l'histoire du mouvement ouvrier. Dès 1811 et 1812, en Angleterre, contre l'industrialisation de leur profession, les ludites, un mouvement d'artisans et d'ouvriers du textile, détruisent des machines à tisser. En France, dès la fin du 19e siècle, le sabotage est parmi les moyens de lutte avérés, reconnus et même préconisés par les organisations syndicales. On pourrait rappeler aussi les mouvements de grève de mineurs sur Saint-Étienne, qui, je crois, ont inondé ou ont tenté de saboter leur outil de travail. Le sabotage est une façon concrète de bloquer l'économie, d'enrayer la machine et de créer des dommages économiques là où ils nous écoutent qu'au travers de leur porte-monnaie. Le sabotage est une façon concrète de bloquer l'économie. Je le répète une dernière fois. Je voulais citer aussi, qui pourrait se rapprocher d'actes de sabotage, les fauchages et destructions de champs d'OGM, les actions anti-pub, qui participent à cette idée et qui sont aussi des façons de s'opposer concrètement à la machine capitaliste. Ensuite, chers auditeurs et auditrices, je voulais vous parler de ces mobilisations contre les transports ferroviaires des déchets nucléaires. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Il y a pas mal d'informations là-dessus sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Du coup, le 7 novembre dernier, partait de Valognes, en Basse-Normandie, un train en direction de Gorleben, en Hollande, lieu de stockage de déchets radioactifs. Ce train transportait dans des wagons appelés wagons Castor des déchets nucléaires. Et les militants, pour alerter sur les risques de la technologie nucléaire et empêcher ces transports qui ne sont pas sans risque d'irradiation pour la population, ont tenté de bloquer les trains par différentes techniques. On peut lire sur le site de Réseau Sortir du nucléaire qu'en Allemagne, les militants antinucléaires ont tenté de bloquer le passage du train à divers endroits par divers moyens, allant de la manifestation de plusieurs milliers de personnes, en passant par le blocage des voies avec des tracteurs, ou en faisant carrément barrière avec leur corps en s'enchaînant à des blocs de béton sur les voies ferrées. Le trajet du train, ainsi que ses différents arrêts forcés, sont détaillés du coup sur le site du réseau Sortir du nucléaire. Rappelons quand même que le 7 novembre, il y a 4 ans, Sébastien Briat trouvait la mort écrasé par un train alors qu'il voulait s'opposer pacifiquement à un convoi de déchets nucléaires. Enfin, même si dans certains articles, on nous dit que les saboteurs s'en sont pris au service public, il faut rappeler que le TGV est une structure en voie de privatisation qui vend de plus en plus cher le droit de se déplacer, précarise ses travailleurs et a pour fonction principale d'assurer le transport constant de main-d'œuvre nécessaire à l'économie hors sol. Dans un monde qui fonce droit dans le mur, on peut voir les blocages de voies ferrées comme une manière, parmi tant d'autres, d'interroger concrètement le dogme sacré de la croissance économique, décrié aujourd'hui par une bonne partie de la population. Brisons le train-train quotidien.
Et voilà, voilà, en guise de conclusion un peu longue, mais plus complète, un texte, j'irais, d'une affiche qu'on a pu voir ça et là, sur les murs de nos villes.
Qui sont les terroristes ? Les conditions de vie toujours plus insupportables qui nous sont imposées reposent sur la peur. Peur de ne pas avoir de boulot et de ne pas arriver à boucler les fins de mois. Peur de la police, peur de la prison, parce qu'au fond, la matraque et son acceptation est ce qui garantit les rapports sociaux. Dans ce monde à l'envers, le terrorisme, ce n'est pas contraindre des milliards d'êtres humains à survivre dans des conditions inacceptables, ce n'est pas empoisonner la terre, ce n'est pas continuer une recherche scientifique et technologique qui soumet toujours plus nos vies, pénètre nos corps et modifie la nature de façon irréversible. Ce n'est pas enfermer et déporter des êtres humains parce qu'ils sont dépourvus du petit bout de papier adéquat. Ce n'est pas nous tuer et mutiler au travail pour que les patrons s'enrichissent à l'infini. Ce n'est pas même bombarder des populations entières. Tout cela, ils l'appellent économie, civilisation, démocratie, progrès, ordre public. La politique est en réalité l'art de travestir les faits en changeant les mots. Leur guerre au terrorisme, à l'échelle planétaire, n'est qu'une arme de propagande pour légitimer toute agression militaire à l'extérieur et toute répression des rebelles à l'intérieur. Dans un effet miroir, l'État voudrait tous nous obliger à être le reflet de sa sale gueule autoritaire. Des amitiés, des affinités et le partage d'une même idée de liberté deviennent une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Des liens tissés dont les luttes deviennent une mouvance anarcho-autonome. Un fumigène devient une bombe. Et pourtant, s'organiser, ce n'est pas nécessairement constituer une organisation, tout comme une grève n'est pas une prise d'otage. L'attaque contre une banque, une prison, une ANPE, une permanence électorale, un centre de rétention, le sabotage de la circulation des trains et des machines dans une usine ne sont pas du terrorisme. Un abîme sépare ceux qui s'insurgent pour se libérer et ceux qui frappent dans le tas pour défendre, consolider ou conquérir le pouvoir, c'est-à-dire les États et leurs concurrents, les patrons, leurs mercenaires et leurs laboratoires de mort. Dans cette guerre sociale qui se déroule au travail comme dans la rue, de jour comme de nuit, l'ennemi est tout individu qui fait obstacle à la marche radieuse du capital. Que chacun, de la manière qu'il estime la plus adéquate, s'oppose au terrorisme d'État et au totalitarisme démocratique. Nous ne subirons pas cette déclaration de guerre en baissant la tête. Que crève le meilleur des mondes.
Et voilà. Alors, moi, concernant cette affaire, bon, je vais peut-être pas en reparler, mais je voulais ouvrir une petite parenthèse concernant le traitement des médias par rapport à cette affaire, avec une autre affaire qui n'a vraiment rien à voir, mais enfin, si, quand même, quelque part, par rapport à la présomption d'innocence. Donc, une semaine après l'arrestation là, du 11 novembre, il y a le député UMP. Jean-Marie Demange qui s'est suicidé. Avant, il aurait assassiné sa compagne juste après l'avoir sauvagement battue d'après des témoins. Donc, les médias qui qualifiaient les terroristes, qui qualifiaient 9 personnes de terroristes sans aucune preuve tangible, oubliant le principe soi-disant sacro-saint de la présomption d'innocence. Ils en parlent comme s'ils étaient sûrs de rien par rapport à cette histoire du député. Donc, cette même presse qui tente de casser l'affaire en prenant soin d'ajouter que Jean-Marie Demange, Bichette, il était dépressif depuis les défaites à l'élection à la mairie de Thionville, comme pour lui trouver des circonstances atténuantes. Mais bon, c'est pas le pire parce que quand même, le lendemain, à l'Assemblée nationale, le présumé député qui se serait suicidé et qui aurait trucidé sa femme, eh ben, grâce à la magie du conditionnel et de la présomption d'innocence, a eu droit à une minute de silence en son honneur de la part de ses collègues de l'UMP. Ces mêmes personnes qui ont sans doute rêveraient de voir croupir en prison pour 20 ans les présumés terroristes de la mouvance ultra-gauche anarcho-truc, eh ben voilà, Monsieur Demange, ben, quant à lui, il sera jamais jugé. Il sera juste un meurtrier présumé, honoré par ses pairs, et par les temps qui courent, eh ben voilà, on a quand même l'histoire des logiques proactives qui sont censées nous protéger de tels drames. Alors moi, je voudrais juste demander par la même occasion que tous les députés UMP soient affichés systématiquement en tant que potentiels assassins. D'autres choses, donc bah, c'est bientôt la fin de l'année, alors il y a pas mal de gens qui se posent une petite question existentielle, qu'est-ce que je vais foutre pour le jour de l'an? Alors soit regarder la télé, soit me prendre une grosse biture dans un endroit incongru avec la traditionnelle embrouille de fin d'année. Et ben bah, si vous savez pas quoi faire, il y a un plan, si vous craignez pas le froid, c'est le collectif Food Not Bombs de Moscou qui vous invite à passer le jour de l'an en leur compagnie pour leur filer un coup de main. Tout ça en vue d'organiser un truc, ils savent pas trop encore quoi, face à tout ce qui se passe en ce moment bah, chez eux. Alors Food Not Bombs, si vous connaissez pas, bah, c'est une espèce de regroupement international de collectifs dont le but est de distribuer de la bouffe dans la rue aux galériens, même aux autres, et en se réfugiant derrière les idées de l'antimilitarisme, du véganisme et de l'antifascisme. Et bon, bah, ces derniers temps, ils ont la vie dure en Russie. Il y a déjà 3 ans, il y a à Saint-Pétersbourg, il y a un de leurs sympathisants, Timur, qui a été poignardé à mort par un faf à proximité d'une distribution de bouffe. Et depuis, à chaque fois que Food Not Bombs organise quelque chose, ils sont obligés d'agir avec le maximum de discrétion, comme si c'était une conspiration. Ce qui ne les empêche pas de rester très actifs, malgré la pression ambiante. Enfin bon. Ça les a pas empêchés de se faire tabasser par un groupe paramilitaire de Nation il y a moins de 2 semaines. Et voilà. Il y a quelques années déjà qu'on entend parler, par le biais de quelques médias alternatifs, des assassinats sauvages commis contre les antifascistes en Russie. Alors bon, bah, la réalité sur place, elle semble assez flippante, parce que depuis quelques temps déjà, l'idéologie nazie a le vent en poupe au sein d'une société russe qu'on pourrait qualifier de gravement malade. On dénombrerait aujourd'hui plus de 50 000 skins qui s'affichent ouvertement fachos, sillonnant les rues et s'exerçant à terroriser toute personne qui ressemble à un immigré, n'hésitant pas à filmer, diffuser leurs actes de violence sur Internet. Et face à cette barbarie, la justice russe détourne son regard. Les agresseurs, qui ont souvent des liens très proches avec les CAF locaux, et puis sont parfois jugés. Souvent leurs actes sont qualifiés de simple hooliganisme, ce qui donne lieu à des relax pour ces accusés. Et pourtant, en 2007, on estimerait à 200 le nombre d'assassinats à caractère raciste en Russie. Avec souvent la même méthode, en égorgeant les victimes par derrière. Alors bon, depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait quand même 25 millions de morts en Russie. Mais le peuple russe semble avoir la mémoire courte. Au fil du temps, la Russie est devenue la terre promise de tous les groupuscules prêchant l'ignominie de la suprématie blanche. Des organisations comme Blood and Honor et Combat 18 ont fait leur nid, partageant le terreau de la haine avec plus de 150 autres groupuscules néo-nazis déclarés officiellement. Ces groupuscules, de plus en plus organisés, développent partout des sections afin d'embrigader la jeunesse locale, qui est plutôt paumée dans la misère ambiante. Tout ça en vue d'entraîner des sortes de milices paramilitaires. Un de ces groupuscules, aux initiales SS, pour Slavyansky Soyuz, l'Union Slave, se détache du lot par son nombre de membres et surtout pour sa proximité avec le pouvoir. Les députés de la Douma n'hésitant pas à afficher clairement leur lien avec cette organisation. Le leader du Slavyansky Soyuz, Demouchkine, diffuse régulièrement une liste qui contient une liste de personnalités à éliminer. C'est déjà arrivé que des assassinats concordent avec cette liste, ce qui n'empêche pas les autorités de déclarer par la suite qu'il n'y a aucune piste concernant les auteurs de ces meurtres. Près de 20% des moscovites se déclareraient favorables aux exactions de ces bâtards. Certains prêtres orthodoxes allant même jusqu'à bénir leur drapeau, une swastika, au cœur d'une croix. Alors, même s'ils ont souvent tendance à se tirer dans les pattes, ces connards savent se réunir pour exercer leur haine derrière le drapeau du nationalisme, et surtout l'idée débile d'une Russie blanche, avec un seul but, mener le pays à un chaos social qui mènerait à un effondrement. Un effondrement du peu de liberté encore existante en Russie. Bon, ça, là-bas, ça a vraiment l'air très flippant. Et en attendant, si vous ne pouvez pas répondre à l'appel du Food Not Bombs de Moscou, ça se comprendrait, parce que quand même, ce qui se passe là-bas, ça fait froid dans le dos, puis ça fait froid tout court à Moscou. Alors, sans parler de la difficulté insensée d'obtenir un visa sur le territoire russe, et si ça vous intéresse et que vous souhaitez apporter votre soutien aux antifascistes russes, vous pouvez quand même venir la semaine prochaine, donc le jeudi 27 novembre, à l'Entrepôt Bellevue, rue de les Galeries. Alors, la CNT Saint-Étienne et la France Plus organisent une soirée autour de cette thématique. Il y aura des militants antifascistes russes à partir de 19h qui seront présents pour discuter de leur situation. Et puis, il y aura après une projection et à la suite, il y aura un concert avec l'Oiseau Mort, un petit groupe de hip-hop de Grenoble. Les Camionneurs du Suicide, alors ça c'est un groupe avec des terroristes d'ultra-gauche. Ils viennent pas de Corée cette fois, mais de la Creuse. Enfin, c'est un peu pareil quoi. Et puis pour finir, il y aura What We Feel, un petit groupe de hardcore antifasciste de Moscou. Alors venez nombreux, même si c'est en semaine, ce serait cool.
Toujours à Saint-Étienne, il y a les anarchistes qui font concurrence aux antifascistes russes et qui organisent une lecture de poésie de Gaston Couté par Bruno Daraki, le comédien chanteur. Ces lectures, elles seront suivies d'un débat avec Philippe Pelletier sur titré L'anarchie, raison et passion. Le théâtre libre, c'est au 48 rue Désiré-Claude à Saint-Étienne. C'est 10 euros et il est conseillé de réserver à l'avance. Je voulais juste rappeler que Gaston Couté, c'était un poète du début du siècle qui a notamment participé au mouvement libertaire et anarchiste du début du siècle. Après, on enchaîne le 28 novembre. Le 28 novembre, c'est un débat à l'amicale laïque de Montréno. En fait, ce débat, il fait suite à la mobilisation des habitants et habitantes de la barre à Offenbar à Montréno contre l'installation d'une antenne relais sur le toit de leur immeuble. À la suite d'un face-à-face entre les habitants et élus, deux rendez-vous avaient été pris le 17 novembre avec une réu entre la ville et les opérateurs. J'ai essayé un peu d'avoir des infos là-dessus, j'ai rien réussi à savoir, le bureau de la direction de la santé publique n'a pas été très communicatif. Du coup, j'en sais pas plus, mais je pense qu'il sera possible d'avoir sûrement plus d'informations quant à cette réunion entre la mairie et les opérateurs de téléphonie. Du coup, rendez-vous le 28 novembre pour un débat en présence d'experts, des opérateurs Bouygues, du bailleur, leur habitat, qui, il faut le rappeler, ont plus de 27 immeubles équipés d'antennes relais. Et que c'est pas le seul cas où les locataires se mobilisent contre l'installation de celle-ci. Du coup, le 28 novembre, débat autour des antennes relais à l'amicale laïque de Montréno, place Jacques Prévert. Je crois que le rendez-vous est à 18h.
Voilà, et sinon, toujours le 28 novembre, pour finir avec cet agenda, il y aura au France, alors j'ai pas plus d'infos, mais au France il y a la maison d'accueil des familles de la maison d'arrêt de la Talaudière qui organise une soirée avec un film sur ce genre d'assaut qui essaye de soutenir ou d'aider les familles de prisonniers et de prisonnières. Donc j'en sais pas mieux, renseignez-vous auprès du France. Et encore et toujours le même soir, alors qu'il y aura aussi d'autres concerts dans la ville, mais celui-ci m'intéresse plus. Donc le 28 novembre, toujours à l'Assommoir, c'est rue de la Richelandière, c'est un pub, il y aura un concert de rap avec Le Singe des Rues de Noisy-le-Sec en banlieue parisienne, c'est du rap vénère, avec Les Rouilleurs de Rive de Gier, je crois, c'est du rap vénère aussi, et peut-être il y aura des autres choses, et l'un des buts de la soirée, c'est justement de faire de l'info aussi sur ces histoires de... En gros, l'État et la police qui s'attaquent aux anarcho-autonomes.
On enchaîne après avec le 29 novembre, un resto, un squat qui est tout fraîchement ouvert, la SOF, qui est dans le quartier du Soleil. Du coup, resto Végète, au squat la SOF, samedi midi. L'adresse du squat...
C'est 14 rue François Albert.
Venez nombreux et nombreuses manger des bonnes petites véganeries.
Voilà, alors je crois que nous en avons fini avec cette émission du numéro 0. Donc je vous rappelle que vous pouvez publier vos informations sur le site du numéro 0. C'est un site qui est fait pour ça. Donc l'adresse du site, c'est http://le numéro 0 tout attaché sans accent.l'autre tout attaché.net. Voilà. Et aussi, vous pouvez nous envoyer vos infos si vous voulez, ou nous dire vos commentaires, vos critiques, etc. On a une nouvelle petite boîte email. Donc, la boîte email, c'est émission radio tout attaché sans accent, @fastmail.net. Donc, fastmail.net. Voilà. Et puis aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi nous écrire à la radio si vous voulez nous envoyer des infos. Donc émission, le numéro 0, chez Radio Dio, 14 rue de Roubaix, 42 100, je pense, Saint-Étienne. Voilà, alors nous allons clore cette émission qui sera rediffusée à 17h aujourd'hui avec une chanson italienne qui était chantée pendant les grands mouvements insurrectionnistes en Italie dans les années 70. Voilà, là elle est interprétée par Paolo Pietrangeli. Voilà, elle s'appelle Contessa et c'est ça parle de grève et de voilà, de grève et de menacer le système avec des grèves et des manifs.
OK, salut tout le monde et rendez-vous dans 2 semaines et d'ici là bonne chance.
roba contessa all'industria di Aldo. Han fatto uno sciopero, quei quattro ignoranti volevano avere i salari aumentati, gridavano pensi di essere sfruttati. E quando è arrivata la polizia, quei quattro straccioni han gridato più forte, di sangue han sporcato il cortile e le porte. Chissà quanto tempo ci vorrà per pulire. Compagni dai campi e dalle officine, prendete la falce e portate il martello, scendete giù in piazza, picchiate con quello, scendete giù in piazza, affossate il sistema, voi gente per bene che pace cercate, la pace per fare quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vederti finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Sapesse contessa che cosa m'ha detto un caro parente dell'occupazione, che quella gentaglia rinchiusa lì dentro di libero amore facea professione. Del resto, mia cara, di che si stupisce anche l'operaio, vuole il figlio dottore, e pensi che ambiente che può venir fuori, non c'è più morale, contessa. Se il vento fischiava, ora fischia più forte, le idee di rivolta non sono mai morte. Se c'è chi lo afferma, non state a sentire, è uno che vuole soltanto tradire. Se c'è chi lo afferma, sputategli addosso, la bandiera rossa gettato in un fosso. Voi gente per bene che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se questo è il prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi finir sotto terra, ma se questo è il prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato.